Partez à la découverte des territoires et de ceux qui les dynamisent avec Parlons Territoire, une émission d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ici en Bretagne. Nous sommes à une encablure de Rennes. On est à Saint-Grégoire, au siège d'Arkéa Banque et Institutionnel. On est ravis d'être avec vous. On est vraiment très heureux de vous le dire, comme on l'avait fait la dernière fois à Lyon. Souvenez-vous, on va aux proches des territoires. Et je suis accompagné pour ce tour de France de l'immobilier et de la fabrique de la ville d'Aurélien Deleu. Comment ça va, Aurélien ?
Excellemment bien.
Voilà. Mieux ce
bonjour,
serait la gourmandise.
Sylvain. Voilà. Exactement.
Merci en tout cas d'être avec nous. Je vous le rappelle, mesdames et messieurs, que cette émission a pour but d'aller au cœur des territoires. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à nous suivre pour le premier opus qui était à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. Voilà, un souvenir magnifique. En plus, j'y suis né à la Croix-Rousse, comme quoi. On est ravis d'être avec vous. Je vais essayer de faire en sorte, dans cette émission, que chacun puisse prendre la parole sur la fabrique des territoires. Il n'a échappé à personne qu'on vit aujourd'hui un moment très particulier dans l'industrie de la fabrique de la ville. Donc, on va éluder aucune question. On va parler franc, on va parler direct. On va parler avec ceux qui vous accompagnent au quotidien. Et c'est bien l'objectif que s'est fixé Arkéa Banque. Ce que je vous propose, dans un premier temps, les amis, c'est comme d'habitude, vous avez maintenant notre feuille de route. On va écouter l'édito d'Aurélien Deleu. Et ensuite, nous rencontrerons les professionnels qui marquent leur territoire, où on évoquera avec eux leur réalité au quotidien et on essaiera de partager toutes et tous les expériences que nous vivons, surtout dans des conditions parfois un peu tendues, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est parti pour l'édito, on est très heureux d'être avec vous. À tout de suite.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Édito par Aurélien Deleu.
Merci Sylvain. Alors tout d'abord, bienvenue à Rennes, bienvenue en Bretagne, bienvenue chez nous, bienvenue au siège d'Arkéa Banque. Extrêmement fier pour cette deuxième émission de vous recevoir ici dans nos bureaux, dans notre siège rennais. Alors tout d'abord, peut-être commencer pour vous expliquer comment on a décidé de construire cette émission. Alors on l'a construit autour de deux thématiques, des thématiques qui sont chères, qui sont importantes pour le groupe Crédit Mutuel Arkéa. La première, c'est l'immobilier. Vous le savez tous, Arkéa Banque, entreprise institutionnelle, accompagne les acteurs de la chaîne de l'immobilier sur du financement, on va dire d'un foncier qui peut être porté par une collectivité locale, les aménageurs, les promoteurs, les bailleurs sociaux, jusqu'à l'investisseur institutionnel. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important d'être présent aux différentes étapes de la fabrique de la ville. Nous ne faisons pas que financer ces opérations, nous essayons aussi à notre mesure d'accompagner et puis on va dire de mettre en réseau ces différents acteurs, de les animer à l'occasion de différentes manifestations. Je pense notamment au speed dating de l'immobilier que nous réalisons chaque année à Paris.
Et qui aura lieu en septembre d'ailleurs.
Exactement, qui aura lieu le 10 septembre. L'idée c'est quoi ? C'est de réunir à Paris, on a à peu près 300 dirigeants pour parler des thématiques, des problèmes que rencontre aujourd'hui le logement et l'immobilier, et puis essayer de parler de solutions et essayer de sortir de l'impasse. Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième, ce sont les territoires. On s'est rendu compte, et on a eu beaucoup de demandes lors du speed dating qui est basé à Paris, de se dire, en fait, on aimerait délocaliser ces réunions et être encore plus présent sur les territoires. C'est ce que nous avons décidé de faire. Arkéa, comme vous le savez, est une banque national, mais dont le siège est basé ici en Bretagne, que ce soit le groupe Crédit Mutuel Arkéa ou Arkéa Banque. Et il est important pour nous d'être présent aux côtés de nos clients, prendre le pouls des territoires, parler évidemment immobilier parce qu'on est sur des marchés qui sont très territoriaux, et puis rencontrer les acteurs qui font bouger la ville pour parler des problématiques, mettre en avant des innovations et essayer de trouver des solutions dans cette période actuelle. Vous le savez tous, la période actuelle est particulièrement compliquée, notamment pour le marché de l'immobilier. Toute la filière souffre et on a notre rôle, nous, en tant que banquiers, d'accompagner cette filière du mieux que l'on peut, en continuant à accompagner les opérations de promotion. Aujourd'hui, on a 900 opérations qui sont financées sur toute la France. Mais surtout, et c'est un enjeu majeur, c'est de continuer à financer de nouvelles opérations. L'enjeu, il est là aujourd'hui pour que la machine ne s'arrête pas et que demain, on arrive à détendre cette problématique du logement en France. Alors, après Lyon, on est ravis d'être ici aujourd'hui à Rennes. Rennes, à la confluence de l'Isle et de la Vilaine. Condate, c'était son nom dans l'Antiquité. Puis elle est devenue la capitale des Gaules. On l'a appelée Rennes, enfin Roisonne, je suis pas breton, hein, pour les Bretons. Et puis, aujourd'hui, on a une métropole qui est extrêmement dynamique. Une métropole qui, notamment, alors que ça s'est accéléré depuis 2017, l'arrivée de la ligne LGV qui la lie, on va dire, à 1h30 de Paris, Rennes attire des entreprises. On a de très, très belles entreprises nationales qui ont leur siège ici dans Rennes et dans la métropole, et également des nouvelles populations. L'Agence de l'urbanisme parle d'une métropole à 550 000 habitants à horizon 2050, quand on est à 468 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça reste dynamique, ça attire, il va y avoir des nouvelles populations. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment loger ces nouvelles populations? On va essayer, on va tâcher d'y répondre à l'occasion de cette émission et de parler des autres thématiques qui impactent le territoire.
Alors, ça a le mérite d'être clair, les amis. Bien évidemment, vous avez posé le décor, mon cher Aurélien. On va écouter dans quelques instants, on va demander au directeur général de Territoire Rennes, qui est une société d'économie mixte sur la métropole. C'est Antoine Monnery qui viendra dans quelques instants nous partager sa vision du territoire. Nous avions d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez Aurélien, reçu Nathalie Appéré à Rennes, au siège, et qui nous avait aussi partagé sa vision. Le logement, c'est un vrai sujet. C'est un besoin maslonien, c'est un besoin primaire, il serait temps qu'on s'y penche. Et soyons clairs, aujourd'hui, nous avons une France des territoires qui a sonné un petit peu la fin de la récréation et qui remet en question finalement ces questions cruciales du logement et du pouvoir d'achat. Parce que c'est bien la question. Et d'ailleurs, je vais vous dire, et vous le savez, mon cher Aurélien, que le premier poste de décrochage après l'énergie, c'est le logement pour les ménages. Donc le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est la dépense qui est devenue la plus contrainte. Elle est passée en première position depuis les 10 dernières années. C'est un vrai sujet. Et vous toutes et vous tous, vous qui nous écoutez, vous dans le public, vous participez à cet effort de la Fabrique de la Ville pour loger les Français. On devrait le reconnaître et même vous reconnaître toutes et tous d'utilité sociale. Je dis bien les choses, hein, voilà, vraiment d'utilité sociale, parce que vous avez un rôle crucial. Et donc l'idée, c'est effectivement, à travers ces entretiens, d'aller au plus proche finalement de ces problématiques sans éluder aucune question. Donc je vous propose, les amis, sans plus attendre, nous allons passer à la première séquence et nous recevrons dans quelques instants Antoine Monnery, le directeur général de Territoire Rennes. C'est tout de suite après ça.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle sur Radio Immo.
Et bien voilà, de retour sur le plateau. On est très heureux d'être ici. En plus, il fait un temps magnifique, comme vous le savez. Il pleut dehors. Ça tombe bien, on a un banquier qui va nous donner un parapluie. Alors, merci. Il fallait le faire. On est ravis d'accueillir sur le plateau Antoine Monnery. Bonjour Antoine.
Bonjour, merci.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Territoire Rennes. Aurélien, c'est important d'avoir les acteurs aussi, publics, parapublics, des territoires pour accompagner la fabrique de la ville.
Exactement. Et justement, Antoine, c'est la première question, c'est peut-être pour rappeler un peu à tout le monde voilà, quel rôle joue aujourd'hui Territoire Rennes. Quels sont ses liens avec les collectivités et le territoire? Et puis ensuite, de peut-être nous parler, parce que je pense que c'est une spécificité rennaise, de cette façon de traiter, on va dire, l'aménagement et le foncier, un aménagement qui est plutôt concerté, qui est plutôt travaillé avec les différents acteurs. Voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu tout cela?
Très bien. Donc, Territoire Rennes, c'est ce qu'on appelle une entreprise publique locale d'aménagement. La dernière émission, c'était à Lyon. Nos cousins les plus proches, c'est la Serle. Vincent Malfer, c'est un peu mon homologue sur Lyon. Donc la particularité de Territoire, c'est on est issu de l'économie mixte. Donc qui dit économie mixte dit un actionnariat majoritairement public, mais aussi privé. Arkéa est actionnaire de la SEM, un actionnaire historique. Et notre terrain de jeu, nous, c'est la métropole de Rennes. Donc, vous l'avez dit en introduction, forte dynamique croissance démographique, dynamique économique, et comment accompagner le développement de ce territoire. Ça, c'est vraiment notre rôle. Et nous sommes vraiment au service de toutes les communes, toutes les collectivités de la métropole rennaise. La particularité de Rennes, c'est cette cohérence entre une forte volonté politique de continuer à accueillir des outils stratégiques. Alors on est entre professionnels, mais on va éviter trop de jargon, mais tout ce qui est PLU, PLH, SCOT, ENCO, tous ces acronymes sont quand même établis en cohérence avec un enjeu fort qui est le rapport au foncier. Et l'avantage de cette lisibilité, c'est de nous permettre d'intervenir Autour de la table, ce sont différents acteurs de la fabrication de la ville. On a cette culture professionnelle commune qui nous permet d'être au rendez-vous des grands enjeux de la fabrication de la ville.
Finalement, vous êtes un allié objectif de ceux qui fabriquent la ville, vous les accompagnez. Et d'ailleurs, c'est important que vous parliez effectivement de cette concertation, de cette cohésion entre le public et le privé. Aujourd'hui, on a une osmose qui se développe de plus en plus. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, on a vraiment cette alliance, puisque sans le secteur privé, on ne peut plus fabriquer la ville de la même façon. J'aimerais, si vous voulez bien, Antoine, qu'on parle de la sobriété foncière, dont on parle beaucoup. Il y a presque un antagonisme quand on dit le mot, sobriété foncière, puisque on a une démographie aujourd'hui qui a fait exploser la demande de logement, même si la démographie en volume n'a pas grandement évolué. C'est les phénomènes de décohabitation, qui ont doublé la demande de logement. C'est aussi les nouveaux usages qui s'installent. On pourrait même dire que c'est une nouvelle forme d'anthropologie de la ville et de l'habitat. On parle aujourd'hui du zéro artificiation nette, le fameux ZAN. Bon. ZAN, c'était des bonbons à l'époque. Là, pour le coup, c'est pas un bonbon, c'est un enjeu majeur. Un enjeu qui parfois est bloquant, pas toujours bien vécu, même vécu comme une contrainte normative qui s'ajoute aux millefeuilles normatifs qui pèse et qui étrangle aujourd'hui les entrepreneurs du territoire, mais ça, vous le savez déjà. Comment vous arrivez, vous, dans votre job, entre le public, le privé, dans une volonté de l'aménagement du territoire concertée, apaisée, inclusive, tous ces mots qui sont charges très fortes de symboles lorsqu'on accueille une population, parce que vous avez la chance d'avoir un territoire hyper attractif. Comment vous arrivez à joindre finalement parfois ces contradictions, ces injonctions opposées dans cette volonté qu'a d'ailleurs la métropole et la maire de Rennes également de vouloir et de continuer à construire du logement pour ceux qui viennent sur le territoire?
Merci pour la question. Effectivement, cet objectif ZAN, zéro artificialisation nette, issu de la loi climat résilience, on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais ça fait déjà de nombreuses années, en tout cas, que nous, territoire, on est en plein sur ces sujets de renouvellement urbain. On n'a pas attendu le législateur pour s'emparer complètement de ce sujet du recyclage. Je vais prendre un exemple, comme autour de la table. Il y a quand même des bons connaisseurs de Rennes. Prenons l'exemple de Maïmabilet, le long de la Vilaine. C'était des anciens entrepôts. Aujourd'hui, c'est un vrai quartier dynamique avec ses habitants, ses commerces, toutes les aménités qui font la ville, ses espaces publics.
C'est un nouveau morceau de ville.
C'est un nouveau morceau de ville. Et en fait, ça se fait. Et ça s'est déjà fait. Donc, aussi pour... relativisé par rapport à l'enjeu, c'est les savoir-faire, on les a déjà développés. C'est aussi travailler avec des architectes urbanistes, en l'occurrence c'était avec Alexandre Chemetov, qui est également intervenu sur l'île de Nantes, avec cette approche assez fine de la densité, pour faire en sorte qu'on oublie qu'ici avant, il y avait une ZAC, la zone d'aménagement concertée, qui est l'outil privilégié de l'aménageur. La meilleure réussite, c'est qu'on a oublié qu'il y a eu un aménageur qui soit intervenu, qui fasse quartier.
Finalement, vous êtes un peu comme le jardinier, vous plantez de la ville. Parce que la ville, c'est un métabolisme lent, un organisme lent, qui évolue. Mais justement, je voudrais que vous nous disiez comment vous vivez finalement toutes ces normes qui s'ajoutent les unes aux autres et qui parfois, vous le savez, pèse lourdement dans l'acte de construire. Est-ce qu'il ne faudrait pas parfois peut-être vous dire, bon là, ça serait bien qu'on ait un peu une pause normative, je sais que la Fédération des promoteurs immobiliers en parle beaucoup par exemple, et vous avez cette équation effectivement de répondre à des normes, normes environnementales, normes bien sûr en termes de mobilité, est-ce que justement vous arrivez, vous, techniquement, à suivre le mouvement avec toutes ces normes qui s'ajoutent les unes aux autres?
Franchement, on n'a pas l'impression de subir l'excès de normes. On n'est pas dans cette position-là. On a la chance d'être aussi dans des sphères nationales où on a les informations un peu en amont, donc on est en capacité d'anticiper sur les évolutions. Et puis, le cycle d'aménagement n'est pas tout à fait le même que le cycle de la promotion. On est quand même sur des cycles longs. On est assez habitué à ces évolutions-là. Et vous voyez, comme je vous l'expliquais, vous évoquiez le ZAN, mais on n'a pas attendu la loi pour déjà prendre ce virage du renouvellement urbain.
Bah, donc, finalement, vous, au lieu de subir la norme, vous devancez.
Bah c'est voilà, c'est d'avoir toujours un temps d'avance, c'est quand même une chance pour pouvoir s'adapter. Et non, sur. Et puis, Certes, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un contexte économique qui est défavorable et qui est très compliqué, mais il y a aussi des enjeux qui nous dépassent, les enjeux liés à, au réchauffement climatique, à la nécessaire décarbonation de cette industrie immobilière. Retronçons-nous les manches pour trouver les solutions ensemble. Et c'est aussi le rôle d'un aménageur d'une entreprise publique locale comme la nôtre, d'être à la croisée d'une volonté politique, de politique publique, et puis d'acteurs économiques autour de la TAM, des entreprises de la construction, des habitants. C'est tout l'attrait du rôle d'aménageur, c'est d'être à la croisée des différents enjeux.
C'est très clair. Aurélien.
J'aimerais qu'on aborde un peu le sujet du foncier. Avec le ZAN, on en a parlé, hein, puis on a un adage, hein, tout ce qui est rare est cher, et on le voit aujourd'hui, hein, un des points de blocage aujourd'hui, hein, du fait que c'est compliqué de lancer de nouvelles opérations de promotion, c'est justement cette inflation sur les prix du foncier, qui est une composante importante, hein, d'une opération notamment de promotion immobilière. Ma question est la suivante, quels sont les leviers qui sont mis en place sur le territoire, justement, hein, pour essayer de maîtriser ces prix de foncier?
Alors le sujet du foncier, effectivement, c'est notre matière première à nous tous. Quand on fabrique la ville, forcément, c'est notre ressource première. Donc, il faut la gérer avec finesse et doigté. Je vais quand même me permettre de distinguer deux cas de figure. Les opérations d'aménagement, où un cher aménageur intervient, et les opérations diffus, où ce sont les promoteurs qui négocient directement avec les propriétaires particuliers. En opération d'aménagement, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'aménagement et que je connais très bien le contexte rennais. Les charges foncières en accession libre n'ont pas augmenté. Ne nous trompons pas de combat. En opération d'aménagement, on est toujours sur 10 à 15% d'une opération immobilière. En revanche, en opération diffus, il y a eu un peu une course à l'échalote et une mise en concurrence des différents acteurs. On en subit aujourd'hui les conséquences, donc il faut aussi que l'ensemble des acteurs qui conduisent à cette situation soit un peu plus posé et raisonné sur les valeurs qui sont générées.
Je reviens quand même sur les opérations d'aménagement parce que on a aussi parfois des sujets de péréquation, c'est-à-dire qu'on impose une quote-part de logement social dans des opérations qui font que la quote-part foncière est peut-être un peu cher, et en tout cas, on n'arrive pas à trouver les équilibres économiques pour sortir des opérations de logement libre.
Est-ce que ça, c'est... Là, c'est le cœur du sujet, hein. On est d'accord.
Oui, on est d'accord.
Mais de votre regard, voilà. Tout à l'heure, on va recevoir des promoteurs, et bon, voilà, c'est un vrai
bien
sujet.
Bien entendu, ouais. C'est normal. N'oublions pas que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette cohérence dans les politiques publiques, la métropole a mis en place un programme local de l'habitat très ambitieux. C'est quand même 40 millions d'euros par an, qui permettent justement d'absorber ce besoin. Très concrètement, sur la question du foncier, il y a une surcharge foncière qui est quand même versée par la métropole pour amoindrir l'impact économique. Je vais pas vous mentir, autour du plateau, sur le plateau, il y a des promoteurs, ils vont me dire, mais qu'est-ce que raconte territoire? Bien sûr, il y a un système de péréquation, mais il n'empêche qu'on peut pas dire que la collectivité ne pourra pas non plus sa part à l'effort de l'accueil aussi d'une population qui n'a pas forcément les moyens de se loger dans l'accession libre.
Mais le sujet du logement abordable, c'est aussi un des éléments du cœur du sujet, c'est de comment produire avec des nouveaux modes constructifs adaptés, comment réduire les nuisances effectivement sur les chantiers, parce qu'effectivement les mêmes citoyens qui vous demandent le vendredi matin vous disent on veut plus de grilles, on veut plus de grues en face de chez nous sont les mêmes qui vous demandent des logements le lundi. Bon, en cohérence des citoyens. Le sujet justement c'est le développement économique, puisque bien évidemment proximité, emploi et logement toujours. Bassin qui crée cette attraction sur les territoires et donc qui compresse finalement ces éléments. Tout à l'heure, je voudrais revenir sur juste le point que vous avez annoncé. Vous avez dit qu'il y a deux sortes de fonciers. Il y a le foncier public et puis il y a le foncier diffus. Effectivement, on a des propriétaires, c'est le mercato. Hein, on peut même dire qu'on est proche quand même de la spéculation foncière. Mais moi, je me mets à la place du promoteur. Sa matière première, c'est le foncier. Donc effectivement, quand il y a de la surenchère, on peut comprendre aussi le mécanisme économique qui pousse certains promoteurs, qu'on fustige parfois trop facilement, dans le fait de l'acquisition du foncier. Je pense que c'est une question qui devra se poser certainement dans les semaines à venir, sur la fiscalité notamment du foncier. Je voudrais que vous nous parliez du développement économique et des opérations de type territoire. Vous savez comment on fait effectivement pour travailler la mixité de ces opérations, entre mixité fonctionnelle avec des bureaux, de la proximité, du retail, du commerce, mais aussi de l'habitat, parce qu'on sait aujourd'hui, il n'y a plus photo, on a désiloté complètement les quartiers et on essaye de travailler cette mixité, voire même ces nouvelles qu'on appelle centralités, qui permettent en fait de désengorger une convergence vers un seul centre-ville.
Je veux juste revenir un tout petit peu en amont sur la question du logement abordable. Une des solutions, c'est la mise en place de l'OFS, encore un acronyme, organisme foncier solidaire qui vise à dissocier la propriété du sol et du bâti et favoriser le logement abordable. Aujourd'hui, à Rennes, des logements abordables permettront à des ménages aux revenus modestes d'accéder à la propriété entre 2008 et 4002 euros du mètre carré. L'OFS permet d'avoir bénéficié d'une TVA à 5,5 et puis pour l'acquéreur, une garantie de rachat. C'est aussi intéressant pour les banquiers, et je sais que Arkéa soutient ces démarches de BRS. C'est pour répondre à votre question sur le développement économique. Effectivement, je suis convaincu, et je vous rejoins tout à fait, il y a forcément un lien entre accueil d'entreprise et accueil de logement. Autrement,
sinon, c'est la relégation sociale, et on le voit d'ailleurs.
On va dans une impasse.
S'il n'y a pas d'emploi à proximité, il n'y a plus de service public. Il n'y a plus d'aménagement. Et donc aujourd'hui, penser l'emploi, c'est penser le logement. Et même le logement comme étant l'artère fémorale de la construction de la ville. Et ça serait temps que publiquement... Alors vous avez de la chance, puisque effectivement, sur votre territoire, vous avez d'abord une maire qui est très volontaire et qui est certainement l'une des maires les plus compétentes en matière de logement. On n'est pas obligé de partager toutes ses idées politiques, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a une réelle compétence. C'est un vrai sujet en soi.
Tout à fait. Et donc, pour répondre à votre question sur la question du développement économique, les entrepreneurs, les entreprises sont aussi impactés par le ZAN. L'objectif zéro artificialisation nette va impacter le développement et l'accueil d'entreprises. Donc, par anticipation, il a été défini à l'échelle de la métropole une stratégie d'accueil avec des sites qui sont identifiés et un autre rapport au sol. À l'instar de ce qu'on a imaginé pour le logement, les entreprises ne pourront plus être propriétaire du sol. On sera dans un système également de dissociation de la propriété du sol et du bâti, avec la mise en place de bacs, bois à construction, qui permettront de pérenniser la vocation économique. Je profite de l'occasion pour que les entrepreneurs entendent le message. On va trouver des solutions pour vous accueillir, mais avec un schéma qui sera différent.
Mon cher Antoine, les Français ont inventé un truc qui est vachement sympa, qui s'appelle le droit de propriété. Bon. Si je vous dis liberté, égalité, vous répondez ?
Paternité.
Non, propriété. 1789. Non, mais 1789.
Dans la convention.
1792, liberté, égalité, propriété, c'était le premier slogan, je ne sais pas si vous le savez, dans le public, de la construction. Et dans le droit romain, les Français ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est finalement de rassembler les trois attributs de la propriété, le jus, le fructus et l'abus, pour en faire quelque chose. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue pédagogique, quand on dit voilà, vous serez plus propriétaire directement et vous serez dans une propriété dissociée, d'un point de vue pédagogique, ça passe toujours. Donc je pense qu'il y a aussi un travail de fond à faire d'acculturation pour pouvoir accompagner ce mouvement. Alors effectivement, Aurélien, le fait qu'on donne la parole aux aménageurs publics donne effectivement une autre vision du territoire. C'est bien le but que l'on s'est fixé. Merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter ?
Je voulais rajouter parce que votre réaction, elle était réelle quand on a lancé le BRS. Les premiers BRS, on craignait que ça n'allait pas être un succès. Et en fait, aujourd'hui, les freins culturels sont dépassés et on est à près de plus de 1000 logements en BRS programmés. Et il y a en plus des reventes. Donc, ça marche.
Oui,
je vais
juste
faire passer le message que c'est un autre rapport au sol, mais c'est pas un autre rapport. Propriété reste.
Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, c'est la même chose quand on achète un appartement qui est en hauteur, on n'achète jamais finalement qu'un cube d'air. C'est pas le sujet. Le sujet, il est pas là. Le sujet, c'est dans l'acculturation. Bien évidemment, le BRS est une solution alternative. Est-ce qu'elle répond à tous les besoins ? Non, certainement pas, mais c'est dans l'arsenal de la fabrique de la ville, parce que les promoteurs ont le même souci que vous, finalement, c'est de loger les Français, c'est de loger leurs clients. Et en plus, ils ont un juge de paix formidable dans une entreprise, c'est le résultat. Voilà, s'ils sont pas bons, ils disparaissent, tout simplement. Merci beaucoup Antoine Monnery, applaudissements pour Antoine Monnery.
Merci.
Directeur général de Territoire Rennes, merci parce que j'ai tout compris. Voilà.
Merci
et,
à vous.
Et on est très heureux de vous donner la parole. C'est vraiment l'objectif de cette émission à suivre. Nous, justement, on va parler promotion immobilière, puisqu'on va rencontrer une grande dame de l'immobilier. Elle s'appelle Norlwenn Karmarek. Elle est présidente du groupe Karmarek, du groupe éponyme, Karmarek Promotion, je précise. Et elle est également présidente de la Fédération française des promoteurs immobiliers pour la Bretagne. C'est tout de suite après ça.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle sur Radio Immo.
Alors les amis, si vous prenez l'émission en cours, nous sommes ici à Saint-Grégoire, à une encablure de Rennes, on est très heureux, au siège d'Arkéa Banque avec mon complice journaliste, éditorialiste et directeur de l'immobilier chez Arkéa, comme quoi, et aussi un cycliste aguerri, je peux le dire aussi.
Tout à fait, oui.
Comment il va Aurélien ?
Bah, il roule pas beaucoup en ce moment parce qu'avec la météo.
Bon, on est très heureux de recevoir. Bonjour Norlwenn Karmarek.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du groupe éponyme pour la promotion et vous êtes également présidente engagée dans l'activité syndicale. C'est un corps intermédiaire hyper important, la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci d'être avec nous. Dans un premier temps, alors on vous connaît tous, hein, parce que vous avez un grand savoir-faire sur la région, mais j'aimerais que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, que vous nous parliez un petit peu de votre groupe. Qui êtes-vous ?
Alors, nous sommes un groupe familial, donc basé effectivement sur la promotion immobilière sur Rennes, Brest et Vannes, et notre terrain de jeu, c'est exclusivement la Bretagne. C'est une entreprise qui a été fondée par mon père en 1985 et que moi j'ai rejoint en 2007. On est présent sur tous les métiers de l'immobilier et j'ai à mes côtés mon frère qui lui dirige toutes les agences immobilières Karmarek Habitation et immobilier d'entreprise Karmarek Entreprise. Donc on a cette capacité effectivement de répondre à tous les besoins de nos clients, quel que soit leur projet immobilier.
Tout à l'heure, on va vous demander de réagir effectivement sur les propos qu'on a tenus avec Antoine Monnery, effectivement pour partager aussi votre vision côté opérateur justement, puisque vous avez la tête dans le guidon tous les jours et sur les chantiers. La première question va vous être posée par notre ami Aurélien.
Alors, je voulais qu'on parle un peu d'actualité. Les chiffres du logement sont catastrophiques, qu'a annoncé d'ailleurs la Fédération.
On peut même dire désastreux.
Tout à fait, des promoteurs immobiliers. Voilà, Pascal Boulanger a sorti les chiffres au niveau national. Il y a le congrès de la FPI qui se déroule d'ailleurs dans une semaine. Je pense que on va tous être autour de la table pour essayer de réfléchir, trouver des solutions. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur les chiffres au niveau de la région Bretagne? Voilà, comment se porte le territoire au regard des chiffres nationaux.
Vous êtes durement impacté, à l'instar des autres régions, de vos autres collègues?
Alors, on a été impacté plus tardivement. Aujourd'hui, on a effectivement un recul sur le premier trimestre 2023 de l'ordre de 49% des ventes versus le premier trimestre 2024 versus le premier trimestre 2023. Donc, autant dire que c'est très significatif. Wow. Pour mémoire, on a vendu en 2023 3 300 logements, là où, sur une période de 2014 à 2023, en valeur annuelle et moyenne, on était à 4 820. Et je le rappelle, le besoin de logements sur les territoires bretons, c'est 23 000 par an.
23 000
disponibilités nécessaires pour répondre aux besoins que vous avez évoqués tout à l'heure d'attractivité
sur
de notre territoire
sur la région
Bretagne. Donc on en est très très loin. On a par ailleurs une problématique qui va s'installer avec une baisse également des permis de construire et qui va impacter à moyen long terme l'offre disponible. Donc c'est un vrai sujet. Alors c'est vrai que c'est arrivé plus tard qu'ailleurs, parce que, vous l'avez dit, on a un territoire breton qui n'a pas été trop chahuté aux dernières municipales, et donc on a des territoires qui sont volontaristes dans l'acte de construire, donc on n'a pas eu ce choc de l'offre.
Concrètement, vous avez des élus locaux qui s'y n'est permis, quoi.
Exactement. Donc ça nous a permis d'être plus résilients que d'autres.
Mais là, on parle des chiffres au niveau de la vente, au niveau du lancement de nouvelles opérations. les chiffres sont à peu près équivalents ou...
Non, bah justement, comme on a eu effectivement cette offre qui a été accompagnée par les collectivités, on n'a pas ce problème d'offre qui existe sur d'autres territoires. Vous parliez de Nantes notamment. Donc notre sujet, il n'est pas là. Notre sujet, il est bien sur le choc de la demande, et c'est ce qu'exprime aussi Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. On a un vrai problème d'accompagnement. Alors non pas que cette demande ne soit plus
présente. C'est la demande
plus présente
ou c'est la demande tout court?
Exactement. C'est que aujourd'hui, on a un problème pour réussir à répondre aux besoins de logement de nos clients. Les besoins, ils sont là. Et évidemment, c'est vrai qu'en Bretagne, on a cette chance-là. On est le deuxième territoire le plus dynamique, le plus résilient. Donc, notre terrain de jeu, il est bon, il est attractif. Mais encore faut-il pouvoir accompagner nos clients dans la mesure du possible.
Donc, l'impact de l'augmentation des points de base, parce qu'effectivement, il y a 18 mois, on se prend 350 points d'augmentation sur les taux d'intérêt, ce qui a quand même complètement rebattu les cartes du marché, parce que souvent, alors c'est une question que je pose souvent dans mes émissions, c'est pas la demande en tant que telle, parce que la demande de logement est toujours aussi puissante ou toujours aussi forte. Les Français ont une vraie appétence sur l'accès à la propriété, par exemple, hein. Ils sont 87% à plébisciter l'accès à la propriété, contrairement à ce qu'on imagine. Par contre, le problème, c'est que voilà, ils n'arrivent plus à être financés.
Oui, et puis on a perdu toute une frange de notre clientèle qui était indispensable au démarrage de nos opérations.
Les
investisseurs,
oui. Avec
le Pinel qui prend fin en fin d'année. Donc, on a encore ce dispositif actuellement possible. Et en Bretagne, on a mis en place un dispositif Pinel breton. Je rappelle que 54% des logements qui ont été vendus en Pinel l'ont été à des propriétaires occupants. Ce qui prouve la bonne équation de ce dispositif, qui permet d'engager des investisseurs qui se positionnent en amont, qui nous permettent de démarrer nos opérations et ensuite d'adresser les propriétaires occupants qui ont besoin d'un peu plus de visibilité, qui ont un projet de vie, vendre leur maison, déménager. Enfin, voilà, ça prend du temps et donc on a besoin de visibilité et ce démarrage des travaux est un acte important pour qu'ils se positionnent. Donc, ce qui nous manque aujourd'hui pour cette amorce, c'est les investisseurs. Et les investisseurs, ils sont verrouillés à tout niveau. Ils sont complètement bloqués dans leur parcours et ce n'est pas le manque de volonté qui est là, c'est bien leur capacité avec un niveau d'endettement, avec tous les dispositifs.
Et il n'y a plus l'attractivité fiscale qui permet de le faire.
Et est-ce que Exactement. Les investisseurs institutionnels ont pris le relais justement? Parce qu'on en a beaucoup parlé l'année passée,
oui.
2023, CDC Habitat, Action Logement entre autres, ou d'autres investisseurs.
Mais c'est l'achat en bloc.
En achat en bloc, exactement, mais qui permettait quand même de relancer quand même des opérations. Quid de 2024? Est-ce que les vannes sont encore ouvertes ou pas?
Alors, ils sont intervenus, mais moins en Bretagne qu'ailleurs. On est en train de faire ce travail de sondage au sein de la FPI Bretagne. Cette raison, on a du mal à l'identifier, mais en tout cas, force est de constater qu'ils n'ont pas été présents à la hauteur de ce qu'ils ont été dans d'autres territoires. Donc, ça a permis d'apporter quelques solutions. Maintenant, il faut avoir conscience, ce sont des solutions ponctuelles et on en a tous fait et on est très content de pouvoir en avoir fait, mais ce n'est pas une solution qui est viable durablement, parce qu'elle s'est faite dans des conditions évidemment qui sont complexes dans l'équilibre de nos bilans. Donc, ça s'est fait, mais ça s'est pas fait dans des proportions équivalentes à ce qui peut se faire ailleurs, notamment en Pays de Loire, pour ne citer que nos voisins. Donc ça, c'est un sujet qui fait qu'on voit bien que ça ne solutionne pas tout. Et ensuite, on sent aussi que 2024, il y a un pas en arrière qui s'opère, parce que à un moment donné, le panier, il n'est pas extensible à foison et que donc ce sera une solution qui sera encore moins possible aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous, on réfléchit au niveau de la FPI nationale, mais également au niveau de la FPI Bretagne, au moyen d'apporter un relais à la fin de ce dispositif Pinel breton, et notamment de voir comment on pourrait accompagner les investisseurs vers de l'accession intermédiaire. On souhaiterait effectivement
Alors vous avez raison, de poser le débat, parce que ce débat aujourd'hui, pour l'instant, il est gelé. Puisque toute la feuille de route, les quatre points évoqués sur la feuille de route, je l'ai eu pas plus tard qu'hier matin, Guillaume Kasbarian, qui aujourd'hui est en train de chercher le cap vers lequel il va se diriger. qui est un vrai sujet, puisque déjà qu'on était légèrement bloqué, là, pour le coup, c'est carrément à l'arrêt. Vous avez évoqué les investisseurs particuliers qui avaient un booster fiscal grâce au Pinel, qui a très bien fonctionné, qui, je le rappelle, a produit, puisque vous produisez, vous le savez, hein, vous produisez 52% de la production de logements sociaux en France. Plus d'un logement social sur deux est produit par des promoteurs. Mais est-ce que vous savez également que 62% des locataires du parc neuf que vous vendez à des investisseurs sont des personnes qui seraient éligibles au logement social? Vous le saviez déjà aussi.
Mais en fait, on n'arrête pas de faire cette pédagogie-là et de dire que notamment le dispositif...
Et vous n'avez pas l'impression d'être Pinel, entendu?
Non, on n'est pas entendu parce que... Alors, on l'a été, ne serait-ce que la pédagogie qu'on avait réussi à mettre en place avec les collectivités en Bretagne ont permis de déverrouiller certains blocages qu'il y avait. C'est quand même très complexe. La question du logement est pas quelque chose qu'on réussit à s'approprier facilement. Ça nécessite de la pédagogie, de comprendre en fait tous les ressorts, de comprendre quel est l'impact de notre métier. Et on en parlera, l'impact de notre métier sur le territoire, il est extrêmement important. Vous parliez effectivement des logements sociaux, c'est réel, mais c'est pas que ça. C'est les collectivités. Aujourd'hui, les collectivités, elles sont exsangues parce que il n'y a plus les droits de mutation, les taxes d'urbanisme, la TVA. Comment ces collectivités-là...
Il leur restait un peu les leviers des MTO, enfin des droits de mutation à titre onéreux. Et là, c'est l'effondrement total. Je voudrais qu'on avance justement là-dessus, juste pour compléter ce que vous disiez sur les institutionnels. Je partage complètement votre point de vue, puisqu'il faut rappeler, et Aurélien le sait, c'est que les institutionnels qui ont acheté ces immeubles en bloc, ils l'ont acheté avec une décote. Et cette décote, c'est la marge aussi des promoteurs. Donc, vous avez finalement été quelque part dans ce goulot d'étranglement. Et effectivement, vous l'avez dit très justement, c'est pas une solution qui va se substituer à l'activité quotidienne que vous avez, vous, en tant que promoteur. On l'a vu aussi également, les coûts de construction ont littéralement explosé, on l'avait pas vu venir. Parce que les facteurs exogènes comme la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine, qui a eu bon dos d'ailleurs pour certains fournisseurs qui ont bien profité du système, ont fait littéralement exploser vos coûts de construction, alors que vous aviez des chantiers engagés dans lesquels il était difficile de revenir sur les coûts. Il y a les modes constructifs qui deviennent de plus en plus compliqués à appréhender. Avec, on peut le constater, j'aimerais avoir votre point de vue, est-ce que les citoyens dans lesquels vous avez vos chantiers aujourd'hui, ils acceptent qu'on ait encore des chantiers? Parce que il semblerait que la population n'ait plus envie ou freine des quatre pieds pour pouvoir avoir des chantiers. Et est-ce que la concertation est aussi avec les quartiers une solution pour éviter par exemple les recours, pour éviter que ça bloque?
Non, mais c'est toute la complexité de notre métier. Et d'ailleurs, on voit bien que aujourd'hui, quand on discute avec les collectivités, ce qu'on fait à Rennes, mais ce qu'on fait ailleurs sur le territoire, et moi, depuis que je suis arrivée présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, j'ai souhaité faire ce trobraise et d'aller voir chacune des collectivités pour pouvoir dialoguer, échanger, partager nos problématiques. Et on voit bien qu'on est dans un temps... Alors, chaque crise... à quelque part son côté bénéfique, parce que on voit bien que ce dialogue il est encore plus nécessaire et encore plus pertinent aujourd'hui. Et si on avait les uns et les autres une solution magique, on l'aurait mis en œuvre. Et vous avez raison de dire qu'il faut pas se tromper de débat. Aujourd'hui, l'augmentation des prix de vente, c'est pas parce qu'on se gave, comme certains parlementaires croient qu'une belle opération, on marge à 30. Mais mon Dieu, mais ce serait merveilleux. Mais c'est pas ça. Au contraire, on a rogné nos niveaux de marge pour essayer d'adapter autant que faire se peut, et je suis d'accord que le combat, il n'est pas gagné, d'adapter nos prix, parce que on a l'augmentation effectivement des coûts de construction. Le foncier, vous en avez parlé, du ZAN, on va pas y revenir, mais la rareté du foncier, forcément que ça impacte le prix. On est sur un territoire en plus qui est attractif, donc sur lequel on a des valeurs vénales, des maisons qui sont réelles, et cette attractivité-là, elle est là.
Le foncier, il est surcoté dans l'ON, dans le diffus. Le foncier, il est surcoté. C'est le mercato.
Mais,
vous êtes plusieurs à aller sur ce...
Mais pas que. Et là-dessus, il faut aussi redescendre un peu le niveau. On a apporté la preuve en faisant des bilans avec zéro de charge foncière qu'aujourd'hui, on a un niveau de prix de revient quand on pose toutes les strates qui composent un bilan qui fait qu'on a un prix en deçà duquel on n'arrive plus à aller. Et que ce prix-là, il faut l'avoir en tête et il faut réussir à se dire comment collectivement on arrive à plus d'agilité. Il faut savoir qu'on construit en Europe les logements les logements les plus vertueux d'Europe.
Absolument.
On est déjà sur un niveau de normes environnementales extrêmement performant. Peut-être qu'il va falloir calmer un peu le jeu. Il va falloir se calmer, parce que à un moment donné, c'est bien beau de vouloir toujours faire plus, de vouloir être toujours plus audacieux, de vouloir toujours être plus performant.
C'est ce que vous demandez à l'AFP, vous demandez une pause normative.
Mais oui, parce que on voit bien que le marché n'arrive plus à suivre. Et là, on est sur un point de blocage qui est mais stratosphérique. Et c'est toutes les sphères de la population que l'on est en train de crisper, de cristalliser, sans qu'ils aient en plus les moyens de comprendre ce qui se joue, parce que c'est tellement complexe, c'est tellement imbriqué que qu'est-ce que ça génère derrière? De la colère. La colère, elle va vers où?
Alors, je vais vous dire, cette colère, elle s'explique, et il y a une France des territoires, et merci de l'avoir dit encore une fois, que moi j'appelle la France des oubliés. C'est la France de la ruralité, c'est la France des villes moyennes, des villes qu'on a condamnées par anticipation. C'est la France qui a vu partir ses petites industries, qui a vu disparaître ses commerces, effectivement. Et donc, vous, les promoteurs, vous avez aussi réinstallé dans les villes de la vitalité, Aurélien.
Et justement, ça, c'est une thématique qu'on abordera en plus tout à l'heure. Moi, j'aimerais revenir sur les solutions. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment on fait pour sortir de cette impasse? Parce qu'on a l'impression, au final, qu'on est quand même bloqué, quoi.
Comment vous voyez, de votre point de vue, avec l'expérience que vous avez depuis plus de 40 ans dans cette entreprise familiale très ancrée dans le territoire, c'est quoi les leviers de croissance pour Kermarec Promotion et les idées que vous avez? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans un attentisme qui a tétanisé toute la profession?
Non, alors bien évidemment pas. Et en tout cas, nous, alors on vit pas notre meilleure vie, hein, tout comme tous nos confrères. Pour autant, on est très fiers de la stratégie qu'on avait mise en œuvre. Parce qu'effectivement, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on reste sur le territoire breton? Est-ce qu'on va voir ailleurs? Est-ce qu'on élargit nos capacités à agir? Et nous, chez Kermarec, Kermarec Promotion en l'occurrence, on a fait le choix de se dire, voilà, on a un terrain de jeu qui est fabuleux. L'idée, c'est pas non plus, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc ce qu'on veut, c'est être pertinent, adresser tous les objets dont je parlais. On fait du logement collectif, on fait du bureau à la découpe, on fait du bureau clé en main pour des entreprises qui ont besoin de s'implanter, de continuer à pérenniser leur activité. On fait des parts d'activité, on fait des locaux commerciaux, on fait des résidences. Bref, on est extrêmement agile. Et nous, notre souhait était de se dire, on va rester sur cette capacité, cette agilité avec une structure qui est courte et qui est capable de répondre à tous les enjeux. Et surtout, on va accentuer notre maillage territorial. Et pour nous, être promoteur, c'est pas seulement être à Rennes, c'est être présent sur toutes les communes qui ont effectivement un besoin, qui ont des industries. Donc c'est connaître son territoire, c'est pouvoir le scanner, voir quelles sont les entreprises qui sont présentes, voir quels sont les moyens de transport, quels sont aussi les niveaux de prix acceptables sur ces territoires. Et aujourd'hui, on voit qu'on a eu raison de faire cette stratégie parce qu'on n'a pas été monoproduit, ce qui veut dire que pour chacun des projets qu'on développe, on a des prix qui sont adaptés au territoire et que quand on lance les opérations, elles se commercialisent. Donc, preuve que les solutions sont possibles. Alors, je vous dis pas que c'est facile, hein, qu'il faut être agile, qu'il faut revenir 15 fois sur l'opération, parce que malgré tout, vous l'avez évoqué, ces contraintes sur les coûts, ces contraintes de normes, évidemment qu'il faut qu'on continue à être performant, mais on l'est.
On peut aussi parler des normes qui sont des normes de dingue et des normes contradictoires. Il y a un peuple français, il y a une population qui augmente, il y a une attractivité dans les territoires. Il faudra bien loger les gens. Je vous donne les chiffres. Le nombre de SDF sur les 3 dernières années a doublé. Rapport de la Fondation Abbé Pierre, 1er janvier 2024. Le nombre de personnes en situation de précarité du logement. Alors, pas des SDF, mais précarité du logement. J'habite chez tonton, tata, 2,5 millions de foyers. Combien de personnes attendent un logement, globalement, en état, on va dire, de relative urgence? 4 millions de foyers.
Et puis on prend du retard sur le territoire, parce que là, vous disiez 3 000 logements qui sortent de terre, quand le besoin sur la métropole, c'est quoi? C'est plutôt 5 000?
Oui, tout à fait.
Mais je vais vous donner un autre chiffre sur Rennes. Au 1er septembre 2023, à la rentrée scolaire, parce que Rennes est une ville étudiante, eh bien, ils étaient 17% des étudiants à avoir renoncé à leurs études à Rennes. Vous le savez, ça?
Oui.
Parce que pas de logement, en sachant qu'un tiers d'entre eux ont dormi dans leur voiture. Voiture électrique, hein, donc ça passe bien. 12% des contrats à durée indéterminée n'ont pas pu être signés également, faute de logement. Les entreprises ont été dépourvues, complètement dépourvues. Ça, c'est le chiffre. Les estimations sur septembre et octobre 2024 sont de l'ordre de 22 à 24%.
Mais ça va aller
croissant. Donc, c'est une catastrophe.
Mais ça va aller croissant.
Et je prends même l'exemple des personnes âgées qui se trouvent dans la même situation. Et quand une société n'est plus capable de loger ses jeunes et d'accompagner ses aînés, on peut franchement dire qu'il y a un souci.
Ah mais oui, puis il y a un souci. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que on est tous d'accord. C'est-à-dire que on est à un moment de convergence où tous les acteurs, que ce soit les acteurs privés, les acteurs sociaux, les constructeurs, les notaires, les architectes, on a noué une alliance pour parler ensemble et on est tous d'accord pour dire que on est dans un point de tension extrême et qu'il faut déverrouiller les choses. Qu'est-ce qui bloque? Mais des décisions politiques.
Rendez-vous aux urnes. Voilà.
Ben, je sais pas si c'est très engageant.
Voilà. Merci, merci beaucoup. Beaucoup. Applaudissements pour Nolwenn Kermarek. Ça fait du bien. Vous êtes présidente de Kermarek Promotion, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ça fait du bien de vous entendre. Parce que c'est vous, le trésor français. Ce sont les entrepreneurs. Ce sont les 5 millions de TPE, de PME qui logent aujourd'hui les 2/3 des Français et qui pourvoient à l'emploi national 62% des emplois nationaux. Et on doit aujourd'hui célébrer le génie français dans l'entrepreneuriat et vous en êtes l'illustration. Merci à vous.
Merci.
Merci. Et on va enchaîner bien évidemment aussi avec un entrepreneur qu'on va recevoir dans quelques instants. J'avais eu le plaisir d'ailleurs de l'interviewer avec la maire de Rennes. On s'était rencontré à Rennes. C'est Alban Boyer, le président des Trécobat et d'Aménatis. Dans quelques instants, ne zappez pas. On se retrouve tout de suite après ça.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Voilà, vous êtes sur Radio Immo avec Parlons Territoire, l'émission d'Arkéa et une banque qui va au contact. Merci en tout cas pour cette troisième et dernière partie. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau, je l'avais déjà rencontré à Brest, c'est Alban Boyer, le président de Trécobat et d'Aménatis. Bonjour Alban.
Bonjour Sylvain, bonjour Aurélien.
Merci d'être avec nous. Aurélien, première question.
Alors, Alban, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé là de Rennes, de la métropole de Rennes. Voilà, cette émission est consacrée à la Bretagne. Et puis, je pense que vous le savez, c'est important pour le groupe d'Arkéa d'être présent également sur les villes moyennes, d'accompagner les entreprises et puis évidemment les problématiques du logement. Donc, voilà, l'activité principale hein, historique hein, de Trécobat, c'est la maison individuelle. C'est un marché qui souffre particulièrement ces dernières années. Comment se porte cette activité au sein du groupe Trécobat? Et puis, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'activité globale de l'entreprise.
Alors, je vais commencer par présenter qui nous sommes. Peut-être, effectivement, Trécobat, c'est un groupe familial, indépendant, dont le siège est à Lannilis, au nord de Brest. C'est très central par rapport à notre territoire d'action, puisqu'on intervient sur l'ensemble de l'arc atlantique jusqu'à Toulouse. 200 millions d'euros de facturation annuelle, 530 collaborateurs et quatrième constructeur de maisons individuelles français.
Pas mal.
Pour prendre un petit peu les choses.
On appelle ça une ETI.
Exactement, c'est la classification ETI. Aujourd'hui, on s'est organisé et diversifié, et il valait mieux, je pense, dans le contexte pour anticiper les choses. Les arbres montent pas au ciel, et si on n'est pas sans être devin, il fallait anticiper un petit peu les tendances lourdes qui se passent aujourd'hui. Donc, notre activité historique est effectivement la construction de maisons individuelles au travers de deux marques, Trécobat et Trécobois, parce qu'on est un gros opérateur dans le domaine du bois, et puis l'activité d'extension qui s'appelle Extambois. Ça, c'est le pôle construction chez nous. Nous avons un deuxième pôle qui est le pôle Aménatis, qui est la partie aménagement foncier et promotion immobilière, qui intervient surtout en revitalisation des centres-bourgs, c'est notre marqueur, et sur les territoires, il y a des besoins importants, et c'est des territoires qu'on comprend bien, puisque c'est déjà ceux qu'on travaillait historiquement, en termes de maisons individuelles. Une troisième activité industrielle, nous avons deux usines, une ici à l'Ermitage, sur le territoire de Rennes Métropole, et une autre du côté de Lannilis. On a une capacité installée de 120 000 m² de murs bois, donc c'est une grosse capacité, pour servir nos propres besoins, mais aussi le compte d'opérateurs tiers qui auraient aussi besoin. Une quatrième activité qui est la partie service. Dans la partie service, c'est des applications digitales, Nestor, donc qui est pour, je dirais, guider nos clients dans ce parcours immobilier parfois complexe et de plus en plus complexe. Une autre activité qui s'appelle Teamsy, dans lequel Arkéa est d'ailleurs, on partage le capital de cette entreprise et cette aventure entrepreneuriale. Et puis une troisième activité qui est Nestor Watt, qui est l'installation et la maintenance photovoltaïque sur les activités résidentielles, sur notre propre parc, sur les 25 000 maisons qu'on a construites, mais aussi pour compte de tiers ou d'autres opérateurs.
Bravo. Mais attendez, après on dira que les entrepreneurs n'ont pas de talent dans ce pays. Franchement, bravo.
Alors, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur l'activité maison individuelle? Parce que, alors, pourquoi? Je pense que c'est important qu'on s'en parle et que s'en dise les choses. Et puis, Alban, vous êtes un vrai spécialiste du sujet. Pourquoi ce marché souffre particulièrement? Pourquoi on a
et les Français
autant de défauts?
On vit dans une démocratie.
Tous les Français veulent une maison individuelle.
Ils sont plus de 85% parmi les 25-35 ans, mais ça, vous le savez déjà. Hein. Voilà, en dehors de Paris, hein, parce qu'à Paris, on a décidé que la maison individuelle, c'était pas bien. Donc, voilà la chambre à 7 mètres carrés, le truc mortel, quoi. 85% parmi les 25-35 ans.
C'est le logement préféré des Français.
Ah oui.
On doit le rappeler. Est-ce qu'on est ou on doit être dans une économie où on doit imposer aux gens leur envie? C'est un petit peu la tendance que l'on prend hein, depuis 2017, puisque finalement, nous n'avons plus aucun dispositif d'aide, ni réglementaire, ni d'encouragement fiscaux. Mais je vais même plus loin, hein, sur les zonages, sur la décarbonation. Tous les dispositifs liés au logement, systématiquement, la maison individuelle a été stigmatisée et exclue de tous les dispositifs, comme si c'était mal d'en faire et comme s'il était interdit d'en faire. La réalité pourtant opérationnelle, c'est que l'envie des Français, c'est bien ça qu'ils doivent avoir. Et donc, il y a une vraie distorsion entre les deux sujets.
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça va s'arrêter. Donc, voilà, vous avez raison, puisque effectivement, vous avez un pouvoir exécutif qui a décidé à la place des Français. Puis les Français, c'est normal, on rappelé. Alors, vous avez dit des choses aussi extrêmement importantes. Et Aurélien a raison de le dire. La maison individuelle n'est pas opposable avec l'idée qu'on partage tous de la transformation environnementale, du souci climatique. On en a parlé avec, effectivement, les personnes du public. On peut, et vous l'avez démontré, puisque dans votre arsenal constructif, vous aviez même anticipé ces mouvements-là sur l'empreinte foncière, sur le mode constructif, sur notamment la capture de carbone, sur lequel vous avez fait des travaux absolument remarquables. Vous êtes même un des moteurs principaux de l'innovation. Je profite de votre présence justement là-dessus. Qu'est-ce qui bloque quand on est un entrepreneur de votre taille aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un désamour à ce point-là? Au point où on vous fustige, c'est-à-dire qu'on vous dit, parce qu'on vous a accablé tous les mots. Vous savez que vous êtes le destructeur de la biodiversité, on vous l'a déjà dit, cela. Ce genre de choses. Alors que les statistiques démontrent que sur les 40 dernières années, l'installation de ce qu'on appelle les CMIS, les constructeurs de maisons individuelles, ont revitalisé un tiers des centres-bourgs qui seraient morts, hein, je vous le dis, qui seraient morts. Travailler sur la vitalité des territoires, puisque cet agencement que vous avez dans la vision, j'ai beaucoup aimé l'idée des centres-bourgs, a fait venir des entreprises qui, du coup, ont trouvé de la ressource humaine de ce côté-là. Comment on fait pour...
On prend notre bâton de pèlerin tous les jours. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas forcément auprès des collectivités, même si parfois, à certains endroits, on a toujours ce discours réducteur où on oppose le ZAN ou la zéro artificialisation nette à la maison individuelle, puisque finalement, on fait un peu cette conclusion un peu rapide. Je rappelle que le besoin de logement en France, il est de 400 000 logements, et que si on veut faire 400 000 logements, il y aura besoin de maisons individuelles. On pourra pas s'en passer. Et il faut juste le bon logement, au bon endroit, et en bonne intelligence, en phase aussi avec le pouvoir d'achat des Français. Je rappelle aussi que la maison individuelle est un produit extrêmement performant à ce titre, en termes de prix au mètre carré. Il ne faut pas l'oublier, dans un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui, face aux besoins de logement, c'est une très bonne réponse aussi pour répondre à ce critère.
Vous avez été impacté par la crise ?
Oui, bien sûr qu'on a été impacté, forcément que nous avons été très impactés. Alors, aujourd'hui, on est à moins 15 chez nous, sur la maison individuelle. Mais je vais expliquer pourquoi, parce qu'il n'y a pas de gloriole dans ce que je suis en train de dire.
Vos collègues, vous le savez,
le marché français est à moins 40 sur un an, la Bretagne est à moins 26, et globalement, en 2 ans et demi, on est à moins 60. La réalité aujourd'hui opérationnelle, c'est que notre marché national historique, c'est 120 000 maisons par an, et aujourd'hui, le trend que l'on vit là actuellement, nous sommes à 50 000 maisons par an. 50 000 maisons. Les chiffres de vente nationaux de maisons individuelles en avril 2024 sont inférieurs à avril 2020. Rappelez-vous, avril 2020, confinement. Nous sommes sur des chiffres inférieurs à avril 2020 où tout le monde était chez soi et où l'acte d'achat d'une maison n'était pas possible.
Est-ce que ça a mis en péril les entrepreneurs de votre secteur ?
Il y aura de la casse, bien évidemment qu'il y aura de la casse, puisque au-delà du carnet de commandes et du niveau d'activité qui doit financer une structure, je rappelle que nous avons eu un nœud coulant qui s'est serré autour de notre cou, qui a été la grande variation et inflation du coût des matériaux sur des chantiers que nous avions en cours et sur des chantiers que nous avions à démarrer et que nous avons dû assumer.
Ouais. Je c'est vrai que la maison individuelle souffre. Moi, j'aimerais revenir sur une activité que vous avez développée, hein, et qui aujourd'hui, via la marque Aménatis, quelque chose d'important et un enjeu majeur, je pense, sur tout le territoire français, c'est la revitalisation des centres-bourgs. Alors, ça marche pas partout. C'est extrêmement compliqué. Comment ça se passe en Bretagne? Pourquoi ça marche peut-être mieux qu'ailleurs? Et quels sont les ingrédients qui font que, si que ça fonctionne?
Si vous voulez bien, Aurélien, j'aimerais qu'on complète aussi de quoi on parle quand on parle des centres-bourgs.
Oui,
parce que
sûr.
Les centres-bourgs ont voté là.
Oui, bien sûr.
De quoi on parle et quels sont les effets? Parce que on connaît bien l'histoire de votre groupe, mais voilà, dites au public ce que vous faites pour ces centres-bourgs, parce que vous êtes attendu par les élus locaux, vous le savez, de ces centres-bourgs comme le Messie, hein, c'est incroyable.
Ah bah déjà, effectivement, on n'est pas nombreux à aller les voir. Faut le dire. C'est-à-dire que nous, au quotidien, en tant que constructeurs de maisons individuelles, on allait déjà les voir. Donc, on les connaît. On allait déjà discuter d'un certain nombre de sujets sur des opérations d'aménagement ou de construction de maisons individuelles. Et puis, d'un rendez-vous en face à face, effectivement, on s'est trouvé du même côté de la table. C'est-à-dire qu'on construit ensemble les solutions. On a besoin de comprendre la logique aussi des élus sur une projection de leur urbanisme et de leur aménagement à un horizon de 3-4 ans, les enjeux de population. Et là, nous sommes là pour y répondre. Je vais prendre un simple exemple. Nous avons une population vieillissante, ça a été évoqué tout à l'heure. Et donc, nous avons mis au point une offre qui s'appelle Ticocon, qui est des maisons de centre-bourg pour des seniors. L'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est le première brique d'un parcours résidentiel senior, mais ce sont des gens qui sont autonomes, qui veulent rester dans leur bourg, qui veulent près de leur médecin, près d'une pharmacie et pouvoir aller faire leur course à pied. Et de l'autre côté, en même temps, ils ont vidé leur maison dans la campagne, grande maison avec un grand terrain qui peut accueillir une famille. Parce que là, du coup, on rend la rotation du parc possible.
C'est génial.
Et donc ça, par exemple, en termes de revitalisation de centre-bourg, on est capable de faire ça. Le deuxième sujet, ou très concret, hein, nous sommes actionnaires d'une société qui s'appelle Office Santé, qui répond à des déserts médicaux, qui fait l'ingénierie de réponses de santé. Et quand on fait des maisons soignantes dans le centre-bourg, eh bien, si l'élu a effectivement besoin aussi d'une maison de santé, on lui apportera aussi l'ingénierie pour dynamiser le territoire et rendre attractif cette commune à des médecins qui peuvent parfois arriver d'ailleurs.
Ça répond aux déserts médicaux. Je réponse aussi au commerce. Compliqué aussi de refaire venir des commerces dans des centres-villes et de petites villes.
L'un, effectivement, n'est pas décorrélé de l'autre.
Il y a les deux sujets, effectivement. Je rappelle que le taux de chômage en Bretagne, c'est 6,1. Donc, je ne peux pas dire qu'on est en plein emploi, mais dans les 6,1, 50% sont des chômeurs de longue durée. Donc, c'est compliqué de leur trouver une suite. Et donc, forcément, que les entreprises sont obligées de faire venir du monde de l'extérieur. Suivant les organisations professionnelles, entre un quart et un tiers des recrutements faits ne viennent pas parce qu'ils ne trouvent pas de logement.
Ça correspond aux statistiques qui ont été annoncées et qui s'annoncent d'ailleurs même malheureusement catastrophiques pour septembre.
Ils ne trouvent pas de logement. Donc nous, c'est d'apporter effectivement des réponses autour de ces sujets. Ça peut pas être une réponse en silo, c'est une réponse collective qu'il faut construire avec les élus, les entreprises des territoires, mais c'est bien sur ces territoires. La Bretagne est un territoire assez particulier de ce niveau-là. Je parlais avec des gens du nord de la France hier. On a un territoire économique qui est extrêmement diffus. Finalement, il y a de l'activité économique sur tout le territoire. Et derrière cette activité économique, il y a de l'emploi du bâtiment, il y a de l'emploi du commerce de proximité un peu partout. La question, c'est effectivement comment on fait pérenniser ces entreprises, comment on fait pérenniser ces emplois locaux. Et puis, il y a un autre sujet qu'on a eu du mal à caractériser, et dans le cadre d'une association qui s'appelle Investir en Finistère, on vient de livrer une grande étude sur les évolutions de population. Elle est disponible sur le site d'Investir en Finistère, je vous invite à la télécharger. Et grâce aux étudiants de l'Université de Bretagne Occidentale, on a pu caractériser de manière instantanée les flux de population. C'est-à-dire les gens qui sont arrivés à la maille de l'EPCI, et globalement, une grande majorité des EPCI en Bretagne, les communautés de communes, ont gagné de la population. Population arrivant des métropoles, Paris, des réfugiés climatiques, sud de la France,
absolument.
Des familles qui arrivent et qui arrivent dans ces territoires diffus pour un choix de vie. Ça passe en dehors des radars et on ne le mesure pas en fait.
C'est la qualité de vie qui est promue à travers ça. Vous avez parlé d'un sujet très important, on va arriver à la fin de cette émission, sur l'habitat adapté dans le parcours résidentiel. Vous avez parlé de cette rotation. Je trouve ça extrêmement symbolique, moi, d'un point de vue communicant, entre la maison, vous savez, où les, où il y avait les enfants et ça devient trop grand et puis il y a les escaliers et puis c'est pas évident, etc. Et on est à 15 km de la pharmacie ou du médecin le plus proche, par exemple, de les mettre en centre-ville et de faire la mutation de l'autre, en fait, finalement, avec une maîtrise des coûts et des prix, parce que, comme vous le savez, l'avantage, c'est que les élus locaux, notamment sur les communautés de communes, ont une politique très offensive, ils sont prêts à vous aider sur le foncier pour le faire, parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'activité pour ne pas mourir, en fait. Hein. L'idée, c'est de pas faire mourir ces centres-bourgs. L'habitat intergénérationnel, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez en mode co-living, ce qu'on de plus en plus avec l'autopartage, les soins, et qui permettent notamment, par exemple, à des étudiants ou des jeunes ménages d'avoir accès à des logements beaucoup plus abordables en échange de services en nature?
Alors, pas tout à fait ces sujets. Le premier sujet de co-living que l'on a fait, c'est pour des réponses de salariés de la santé, puisque avec Office Santé, on est connecté à ce monde. Et effectivement, quand on recrute sur un territoire du personnel santé, qu'on a déjà eu du mal à faire venir, le sujet de co-living d'atterrissage pour les jeunes professionnels de santé, c'était un sujet. Et donc, on a des premières solutions qui arrivent sur ce sujet. L'histoire de l'intergénérationnel, en fait, c'est au travers de Ticoco. Je rappelle la maison individuelle, petite maison individuelle de centre-bourg. Et donc, il y a des fois, en mode, même si on est dans un village, on a besoin de faire un peu plus de densité. Et donc, effectivement, on est en train de travailler sur des solutions où on a du logement à l'étage pour loger de la primo-accession et où on garde la première réponse utile pour loger les seniors au rez-de-chaussée.
Je trouve ça. C'est, voilà. Non, mais ce qui est, vous savez quoi, ça me met dans un état de rage comme c'est pas permis. Les solutions, vous les avez. Nolwenn tout à l'heure nous en parlait. Antoine, point de vue public, a les outils. Il suffit simplement de les mettre en place. Mais ça va se faire bientôt.
Aurélien. Alors, Alban, pour conclure un peu l'intervention, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la démarche ESG qu'a mis en place le groupe Trecobat. Vous le savez, hein, c'est.
Alors, aussi... ESG. Alors, établissement supérieur de gestion. Non, c'est quoi? Environnement,
social, gouvernance. Ou RSE, voilà. Mais en tout cas, voilà, de vous dire que c'est vrai qu'Arkéa, le groupe Arkéa est extrêmement investi, hein, sur la transition environnementale. Et je sais que, voilà, le groupe Trecobat, a notamment innové dans la matière. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler et puis nous donner un exemple d'innovation de ce que vous avez fait, notamment sur tout ce qui est production d'énergie en lien avec le logement?
Pour en parler 3 heures, ça nous passionne. On est un acteur du territoire extrêmement engagé. Quand j'entends que la maison individuelle, effectivement, dénature les choses, on saura démontrer 10 000 fois
bien sûr
ce que l'on fait au quotidien pour casser cette image et montrer ce que l'on fait.
Je vais même aller plus loin. Il y a un groupe d'écologistes qui ont démontré que construire des maisons individuelles avec des modes constructifs, par le fait d'occuper un espace sur l'empattement au sol, doper la biodiversité, et compenser les difficultés, en fait, sur les terres arables qui étaient autour, sur les problématiques de monoculture, notamment. Et ça, c'est quelque chose qui est une vraie, vraie, vraie réponse. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, comme vous le savez, il y a un rapport aussi qui a publié le fait que les abeilles vivent mieux en ville, parce qu'effectivement, on n'utilise pas les pesticides, par exemple. Donc, le fait que vous alliez bout dans ces territoires favorise au contraire la biodiversité. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, hein.
Non, tout à fait. Alors déjà, pour contrecarrer un petit peu la perception de ce que peut être parfois le greenwashing, il faut faire un constat, un diagnostic et fixer un cap et un chemin. Donc il y a quelques années, nous avons fait le bilan carbone du groupe, ce qui a permis d'éclairer un petit peu ce que pesaient nos activités et la façon dont on pouvait éclairer le chemin pour lutter contre ça. Le groupe a pris un engagement, horizon 2030, moins 35% du poids carbone, du bilan carbone du groupe. Et donc, c'est une trajectoire sur des matériaux biosourcés et de la construction décarbonée. On est un gros opérateur en bois. Et donc, je vous dis qu'à horizon de 3 à 5 ans, 50% des maisons que nous allons produire seront en bois. Nous sommes déjà à 35% en termes de commercialisation aujourd'hui à date dans ce que je parle. Donc, c'est un engagement extrêmement fort. Et toutes les solutions en termes de logement, pas que de maisons individuelles, nous poussons les solutions au travers du bois. Nous sommes industriels, nous en fait l'analyse de la valeur et donc on est capable de dire aujourd'hui qu'on fait une maison bois même prix qu'une maison traditionnelle. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent revendiquer ça, c'est un acte extrêmement fort. Le deuxième sujet effectivement dans les engagements, c'est les solutions énergétiques, puisque on va dire que depuis l'Ukraine et la crise de l'énergie qu'on a connue, tous les Français se sont posé les questions de comment ils chauffaient l'hiver. Précaution, rappelez-vous, Bruno Le Maire qui met son pull ou son gilet ou son écharpe pour dire comment on devait faire des économies sur le sujet. La vraie question, c'est qu'effectivement, c'est un budget extrêmement variable pour nos concitoyens et qu'il fallait y apporter des réponses. Nous avons été sollicités de nombreuses fois par des clients qui voulaient déjà rendre autonome un peu leur maison en termes de production. C'est pour ça qu'on s'est mis à faire du foisneau photovoltaïque, parce que la demande a été extrêmement soutenue et on y a apporté les réponses. Et puis on a voulu aller beaucoup plus loin sur le sujet, et donc là on a une innovation, on a fait une première européenne il y a quelques mois, elle a fait l'objet d'un reportage sur le 20h de TF1 d'ailleurs, c'est une maison autonome en hydrogène. Et donc la maison, elle est aujourd'hui habitée, elle vit, elle est monitorée pendant deux cycles de saison, puisqu'on va regarder été comme hiver la façon dont ça se passe, et on vise 90% minimum d'autonomie sur un cycle combiné habitat-mobilité, puisque le sujet n'est pas que l'habitat. Quand je fais une maison individuelle, j'ai besoin de me véhiculer.
Vous pouvez alimenter le véhicule ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Et donc, on est en train de monitorer cette solution. Et juste pour dire que dans ce prisme-là, nous visons l'autonomie, là où certains visent le rendement d'une installation. Mais on n'est pas dans le même prisme, la même lecture, la même analyse de la valeur de la solution.
Alors, merci. Une belle innovation. Voilà. Et on voit que
voilà.
Les territoires ont des idées.
Bravo. Merci. Alors, bien évidemment, là, on est dans un public dans lequel on taille tous dans le même secteur, mais vous toutes qui nous connaissez, qui nous écoutez régulièrement, vous voyez bien que tout ça, c'est du concret. Ce que dit Alban à la tête de l'entreprise, puisque votre juge de paix, c'est aussi ce qu'il y a sur la dernière ligne du bilan. Si vous n'étiez pas aujourd'hui profitable, ou au minimum pour certains de vos confrères à l'équilibre, vous auriez disparu. C'est aussi intéressant d'avoir des banques qui soutiennent dans ces mouvements de tempête. Et je dois le dire, que Arkéa, vous avez toujours eu cet ADN. Mais vous êtes aussi une banque coopérative, donc il y a aussi un état d'esprit coopératif qui préside à tout cela. Les richesses, on l'a dans notre pays, on l'a vraiment. Et je pense que une des vertus finalement de nos émissions, mais ça vous le savez public, puisque je vous le dis à chaque fois dans ma matinale du samedi sur Sud Radio et sur toutes les villes de France que nous faisons, de pouvoir mettre l'accent. Je vous rassure Alban, les Français se sont manifestés, le rendez-vous sera donné aux urnes et les choses changeront dans le bon sens du terme. Et vous savez, tout bouleversement est propice à des changements. Et je voudrais citer Denis Diderot, l'encyclopédiste, on va faire un peu de culture, qui disait finalement, il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui voient le monde tel qu'il est, et puis il y a les autres qui le voient tel qu'il pourrait être. Ce qui fait que les uns sont des pusillanimes, on peut même dire des lâches, et les autres des téméraires. Vous êtes définitivement un téméraire. Et je pense que c'est aussi ça qui fait l'ADN des entrepreneurs dans notre pays. J'avais demandé à Antoine, qui est dans le public, Antoine Mandry, quel était le mot qui qualifierait les propos. Vous m'avez répondu, Antoine, optimisme. Et j'ai demandé la même chose à Nolwenn, et vous m'avez répondu, pragmatisme. Pour illustrer le propos, je vais vous poser la même question, à vous, Alban. Quel mot qualifierait les propos que nous avons partagé ici? Conviction. Ça me plaît beaucoup. Et je vais demander la même chose à notre ami Aurélien. Un mot.
C'est défi.
Défi. Si on veut avoir le sens des convictions, encore faut-il fixer des défis. Ces défis, il faut les faire avec optimisme et pragmatisme. C'est la conclusion de notre émission. Je voudrais remercier... oui, vous pouvez applaudir. Je voudrais remercier pour ce deuxième opus donc de Parlons Territoire avec nos amis d'Arkéa. Nous sommes ici à une encablure de Rennes, à Saint-Grégoire. Nous serons bientôt à Bordeaux.
Exactement. Alors, juste avant, je me permets, mon cher Sylvain, avant Bordeaux, on vous donne rendez-vous à tous ici aujourd'hui, le 10 septembre, à la Maison de la Chimie à Paris pour le speed dating de l'immobilier, dont la thématique, et on l'a abordé sur les trois interventions aujourd'hui, c'est l'emploi et le logement. Et on le sait, aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement grave. On n'arrive plus à loger aujourd'hui la population et les salariés des entreprises. Donc, on va avoir des tables rondes pour parler de cet enjeu. Et puis ensuite, comme toujours, un moment convivial, mais d'ailleurs que je vous invite à partager ici, à la fin de cette émission, puisqu'on a un cocktail déjeunatoire avec l'objectif de mettre en réseau, d'échanger entre dirigeants de l'immobilier.
Et ensuite, nous prenons la route pour donc Bordeaux.
Et donc, dernier trimestre, nous irons à Bordeaux, qui est aussi une ville importante pour le groupe Crédit Mutuel Arkéa et pour Arkéa Bank. On a des équipes sur place, on est très présents pour accompagner la filière et les acteurs de l'immobilier.
Merci beaucoup. Et D'ailleurs, nous avons fixé 4 rendez-vous. Hein, ça, donc, on est au second rendez-vous. Nous y rebordons. Nous aurons un 4e rendez-vous. Et on espère continuer, d'ailleurs, en 2025, ce Tour de France de l'immobilier. Je voudrais remercier nos participants. Alban Boyer, merci beaucoup. Président de Trecobat et d'Amenatis. Allez voir sur les sites internet. Ça, c'est vraiment, ça a du sens et c'est très pragmatique. Pragmatique, c'est ce qu'il a qualifié aussi avec une vision très opérationnelle dans son métier. C'est Nolwenn Kermarek, qui est président de Kermarek Promotion. Également, Antoine Monnery, directeur général de Territoire Rennes. Ne changez rien, justement, restez tel que vous êtes. Un merci également à Nelly Briand, qui nous a accueillis très gentiment ici, dans ses locaux. Merci à Aurélien Deleu, merci à Baptiste, merci à Jason, merci à Alexandre, merci à toutes les équipes qui ont concouru à cette émission. Merci à vous, public. N'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez écrire, bien évidemment, on peut nous envoyer des mots, on peut envoyer même son 06 à Aurélien, c'est possible. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous. N'oubliez pas, rendez-vous aux urnes, car le fait de voter, eh bien, c'est la manifestation de l'intérêt citoyen que nous avons tous pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans une ville, dans des centres-bourgs, de manière inclusive et harmonieuse. C'est en tout cas l'objectif que l'on se fixe lorsqu'on porte la parole. D'ici là, prenez soin de vous. We'll be right back.